Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1947, L'espèce humaine est le témoignage de Robert Antelme sur sa déportation dans les camps nazis, après son arrestation pour activité de résistance en 1944. Le livre ne vise ni une reconstitution exhaustive du système concentrationnaire ni le récit héroïque de la survie individuelle. Il examine, à partir de la faim, du froid, du travail forcé, de la peur et de la dépendance absolue, ce que devient un homme placé dans un dispositif organisé pour le réduire. Antelme décrit notamment la vie dans un commando rattaché à Buchenwald, puis les derniers mois de guerre et la désagrégation des corps. Sa perspective demeure pourtant plus large que son propre cas. Le titre affirme que victimes et bourreaux appartiennent à une même espèce, sans que cette communauté annule la responsabilité du crime. Par une prose volontairement sobre, attentive aux gestes et aux besoins matériels, le texte cherche à rendre discible une expérience longtemps ressentie comme presque inimaginable. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la faim comme mécanisme matériel de destruction et de pensée. Dans l'espèce humaine, la faim ne constitue pas un simple décor de souffrance. Elle organise le temps, les relations et la perception du monde, la recherche de nourriture, le calcul des rations. La fatigue produite par le manque et la fixation sur les restes réduisent l'horizon immédiat du déporté à des nécessités physiques. Antelme montre ainsi comment le camp attaque la personne par le corps avant de prétendre atteindre sa dignité. Le travail forcé, le froid et les coups aggravent ce processus, mais la faim possède une force particulière car elle revient sans interruption et modifie chaque décision. Le récit refuse de juger hâtivement les conduites nées de cette pénurie extrême. Il ne transforme pas la survie en vertu pure, pas plus qu'il ne présente les gestes de repli comme des fautes simples. Cette attention aux contraintes concrètes évite une vision abstraite de la dignité humaine. La dignité ne se confond pas ici avec le maintien intact de toutes les habitudes morales. Elle réside aussi dans le fait que le déporté reste un sujet qui éprouve, observe, pense et cherche des liens, même lorsque son existence semble ramenée à la seule conservation de la vie. La description précise des corps affamés donne donc au livre sa portée philosophique sans le détacher du réel. Deuxièmement, une humanité irréductible sans idéalisation des victimes, la thèse centrale du livre tient dans le titre. Le pouvoir nazi cherche à traiter certains êtres comme une matière inférieure, exploitable, puis éliminable. Antelme oppose à cette entreprise non pas une essence noble ou héroïque de la victime, mais une affirmation plus radicale: nulle ne peut sortir un homme de l'espèce humaine. La violence peut tuer, affamer, humilier et défigurer, mais elle ne transforme pas sa cible en autre chose. Cette idée interdit également de placer les bourreaux hors de l'humanité. Ils demeurent des hommes, ce qui rend leurs actes plus accusateurs et non moins graves. Antelme ne propose donc aucune consolation fondée sur une séparation confortable entre humanité bonne et inhumanité monstrueuse. Le camp révèle au contraire une capacité humaine à administrer la domination et la destruction. Cette position permet de comprendre pourquoi le texte observe aussi les tensions, les rivalités et les violences entre détenus. Les victimes ne sont pas idéalisées comme un groupe moralement homogène, car les conditions du camp déforment les rapports sociaux. Toutefois, ces déformations ne valident jamais le système qui les produit. En maintenant ensemble communauté humaine, responsabilité des criminels et vulnérabilité des déportés. Antelme construit un humanisme exigeant, fondé sur l'égalité irrévocable des hommes plutôt que sur une image rassurante de leur bonté. Troisièmement, le camp comme système social et non comme face-à-face isolé, Antelme ne limite pas son regard au rapport direct entre SS et détenus. Il montre que le camp forme une organisation complexe, où les fonctions attribuées à certains prisonniers. La distribution inégale des ressources et la peur de mourir créent des hiérarchies internes. Cette dimension est essentielle pour comprendre que la violence concentrationnaire ne dépend pas seulement de scènes spectaculaires de brutalité. Elle passe aussi par la rareté organisée, la surveillance, les tâches imposées, les privilèges minimes et la mise en concurrence des personnes. Certains détenus disposent ainsi d'une autorité déléguée et peuvent reproduire à leur échelle des pratiques de domination. Le constat ne dilue pas la responsabilité nazie, le cadre, les règles et la finalité destructrice proviennent du pouvoir concentrationnaire. Il empêche cependant une lecture trop simple dans laquelle toute solidarité serait spontanée et toute cruauté viendrait exclusivement de l'extérieur du groupe captif. Le livre accorde une importance décisive aux gestes de soutien, à la présence des compagnons et aux échanges de paroles. Mais il les situe dans un environnement qui les rend difficiles et fragiles. Cette analyse des médiations sociales distingue le témoignage de la seule évocation de souffrance individuelle. Elle conduit le lecteur à examiner comment une institution peut produire des comportements de soumission, de séparation et de violence en façonnant les conditions ordinaires de l'existence. Quatrièmement, une écriture sobre pour approcher ce qui paraît inimaginable dès son ouverture. le livre pose un problème de langage au retour des camps, les survivants veulent parler, mais ce qu'ils ont vécu paraît difficile à transmettre et même à croire. Antelme répond à cette difficulté par une écriture précise, souvent dépouillée, qui accumule les observations sur les corps, les objets, les trajets, les ordres et les gestes. Il évite largement les effets de style destinés à produire une émotion immédiate. Cette sobriété ne signifie pas absence de travail littéraire. Elle correspond à une exigence de fidélité, ne pas recouvrir la réalité par des images grandioses, ne pas transformer la catastrophe en spectacle, ne pas substituer une explication générale à l'expérience des hommes présents. Les répétitions et le rythme parfois lent font sentir la durée du camp, où la souffrance ne se résume pas à un événement isolé, mais devient une continuité. Le narrateur observe aussi sa propre conscience, comme si une part de lui devait enregistrer ce que le corps subit. Cette distance réflexive donne au texte une forte densité intellectuelle. Le témoignage ne prétend pas résoudre l'impossibilité de dire, mais il refuse de ne faire un prétexte au silence. Il établit que la parole demeure nécessaire précisément parce que l'expérience excède les catégories habituelles. Écrire devient alors une responsabilité envers les morts, les survivants et les lecteurs appelés à reconnaître la réalité décrite. En dernier lieu, de la mémoire des camps à une vigilance politique durable, l'espèce humaine est ancrée dans la déportation nazie. Mais son enjeu ne se réduit pas à la conservation d'un souvenir historique. Antelme invite à penser les conditions qui permettent de désigner certains êtres comme moins dignes, moins crédibles ou moins humains que les autres. Le camp en représente la forme extrême, une administration de la force qui transforme des personnes en main d'œuvre épuisables et en vie dont la disparition semble ne compter pour personne. Le livre ne fournit pas un programme politique ni des leçons faciles pour le présent. Sa portée tient plutôt à la vigilance qu'il impose contre les discours de hiérarchie humaine. Les mécanismes de mise à distance et les institutions qui habituent à considérer la souffrance d'autrui comme normale. Cette vigilance exige aussi de ne pas employer le passé comme une métaphore vague. La singularité historique des camps doit être respectée, avec leurs projets de persécution et de destruction. Mais cette précision historique rend la réflexion plus utile, elle oblige à repérer concrètement comment le langage, les catégories administratives. La peur et l'intérêt peuvent préparer l'exclusion. En refusant la haine généralisée tout en nommant la violence, Antelme propose une mémoire qui n'est ni sentimentale ni passive. Elle demande de reconnaître la vulnérabilité commune des corps et la responsabilité spécifique de ceux qui organisent ou acceptent la domination. En conclusion, l'espèce humaine s'adresse aux lecteurs de témoignages sur la déportation, aux étudiants en histoire, en littérature ou en philosophie, ainsi qu'à toute personne qui souhaite comprendre la violence de masse sans la réduire à des images connues ou à des explications rassurantes. Sa lecture est exigeante en raison de la dureté des faits et de la lenteur volontaire de certaines descriptions. Elle apporte toutefois un bénéfice intellectuel particulier, elle apprend à considérer le camp comme une réalité matérielle, sociale et morale, plutôt que comme un symbole abstrait du mal. Le lecteur y trouve une réflexion rigoureuse sur la faim, la dépendance, la hiérarchie, la survie et la responsabilité, fondée sur l'expérience directe mais orientée vers une question universelle sur l'égalité humaine, par rapport à de nombreux récits concentrationnaires. Le livre se distingue par son refus simultané du pathos, de l'épopée personnelle et de la séparation absolue entre victimes humaines et bourreaux inhumains. Antelme ne minimise jamais le crime nazi, mais il montre que le bourreau appartient lui aussi à l'espèce humaine, ce qui interdit de traiter la barbarie comme une anomalie étrangère à toute société. La force du texte vient également de son attention minutieuse aux réalités ordinaires du camp et de sa prose sans ornement. Il ne cherche pas à offrir une consolation. Il établit plutôt que la dignité humaine ne dépend ni de la force du corps, ni de la reconnaissance accordée par le pouvoir. Cette exigence de vérité est en fait un texte majeur de la littérature testimoniale de l'après-guerre. Si vous souhaitez soutenir Robert Antelme, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.